belle-mère, bonjour. Vous êtes la première à être connectée aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, soyez bénis. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bonjour Manon. Bonjour Pasteur André, s'il est à côté de toi. Bonjour Yolène, sois bénie. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Salutations Aline. Marie-André, bonjour. Et salutations à notre ami Farley aussi. Bonjour à mon père et à ma mère. Immacula, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère effectivement que vous avez passé une bonne journée hier. Aujourd'hui, dernière journée de soleil parce que à partir de cette nuit, il va se mettre à pleuvoir et demain, il pleut assurément un peu plus fort encore. Bonjour Alex, que Dieu te bénisse. Bonjour à Sandra, si elle est près de toi. Tu n'as pas de parade ou d'événement aujourd'hui? Habituellement, le 11 novembre est une grosse journée pour toi. Donc cette année, tu es plus relax ou tu t'apprêtes à partir? Bonjour Rosie. Bonjour frère Claude. Bonjour à Déborah et à Derna. Gros bisous à Déborah. Et bien entendu, en différé, tu transmets un tout aussi gros bisou à Léa et une grosse accolade à Marcus. Merci Yolène. Donc tu nous écoutes depuis la voiture ou tu t'apprêtes à partir vers Québec? C'est pas une journée fériée pour nous aujourd'hui, Rosie. On souligne le 11 novembre, mais ce n'est pas une journée fériée en soi. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Je sais qu'en France, par contre, c'est férié, si je ne m'abuse. On souligne un peu plus formellement la chose, probablement qu'ici au Québec ou au Canada. Coucou Farley. Ah, bien le bonjour Sandra. Content de te savoir là. Alors je garde le petit mot que je veux dire pour tout à l'heure, juste avant qu'on ne débute. L'Algérie comme une mairesse. Vous comprenez laquelle? Je ne vais pas plus loin. Aujourd'hui, Rosie, de ce côté-ci de l'Atlantique, il fait encore zéro. Là où je suis, il fait zéro. Un peu plus au centre de Montréal, c'est un peu plus chaud, 2-3 degrés. Mais pour chez nous, c'est 0 degré. Et ce matin, en se levant, c'était 0 degré, mais on ressentait moins 5. Parfaite journée à mes yeux. Shalom, shalom, la belle-mère. Bonsoir Bernadette. J'étais bien content de te voir hier soir. Que Dieu te bénisse. Alors hier soir, il s'est passé plusieurs choses. Je n'étais pas supposé enseigner. Mais la personne qui était de service s'est trompée dans le calendrier. Donc j'ai pallié pour elle. Et donc j'ai donné l'enseignement que je devais donner ce matin. Par contre, lorsque j'ai écouté après coup l'enregistrement, le son était exécrable. Donc, on va reprendre ce matin l'enseignement d'hier soir. On reprend l'enseignement qui était prévu pour aujourd'hui, mais que j'ai précédé donc hier soir. Et puis, bon, ça nous a donné moyen de répéter et moyen d'approfondir un peu la chose. Donc, on va reprendre ce matin l'enseignement qui a été prodigué hier soir. Donc, pour des gens comme Bernadette, pas comme Guy que je vois apparaître maintenant, qui était là hier soir, ça sera une répétition, mais j'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. On a supprimé l'enregistrement de hier soir tout simplement parce que le son était très désagréable. Bonjour à Marie-Marthe. Effectivement, Rachel, on nous en a avisé durant la réunion, mais la personne à la technique n'était pas devant l'écran pour Facebook. Donc, on n'a pas su assez tôt que le son passait mal. On l'a su, je pense, il restait peut-être 10 minutes à la rencontre. Vous allez entendre juste un peu mieux ce matin. Et si vous entendez un métronome, c'est la façon que Nema a de dire à son maître qu'il est supposé me gratter. Bonjour à la sœur Susana. Que Dios me la bendiga, hermana. Y a su esposo también. Donc, comme il reste quelques minutes avant qu'on ne débute, je veux souligner, on est le 11 novembre, donc c'est le jour où on se rappelle de l'effort des militaires, du corps militaire, dans nos différentes contrées, que ce soit pour ceux qui nous regardent en France, ou pour nous qui sommes de ce côté-ci de l'Atlantique. Et comme vous savez, le frère Alex a fait carrière au niveau des forces armées canadiennes. Il a servi dans bien des endroits comme casque bleu, une des emblèmes toutes particulières des forces armées canadiennes qui ont toujours été impliquées dans les forces de paix depuis leur création. Et donc, il a été affecté dans tous les endroits chauds de la planète, tout ce qu'on connaît depuis les 20-30 dernières années. Donc on veut souligner le service fidèle et le service de compassion que le frère Alex, mais aussi tous ses frères d'armes, ont eu à offrir pour notre population. Vous savez que lorsqu'il y a une catastrophe ici même au Canada, on fait aussi appel à nos soldats pour venir dépanner à deux reprises dans les dernières années. lorsqu'il y a eu des inondations dans la grande région de Montréal ou ailleurs au Québec. Ils ont été appelés pour soutenir la population. Donc, on veut tout simplement avoir une pensée pour eux ce matin, leur dire un grand merci pour leur service aux frères Alex, oui, mais aussi à tous ceux qui l'ont précédé et à ceux qui lui succèdent aujourd'hui aussi. On pense aussi à toutes ces épouses, tous ces enfants de militaires qui partagent un peu leur papa ou leur maman avec, et leur époux et leur épouse, avec la grande population. Donc, on veut leur dire merci pour les sacrifices, merci pour le don de soi, merci pour le dévouement, non seulement des militaires en soi, mais aussi de leur famille. Donc, que Dieu vous bénisse, et puis on espère que, là, alors que vous êtes en route vers la belle ville de Québec, où il y a le défilé ce matin, on espère que vous aurez un temps agréable et que vous pourrez profiter de toutes les marques d'affection que la population en grand général va vous offrir. Alors que Dieu vous bénisse et merci pour votre service et merci pour ce que vous avez fait pour la patrie. Donc, je pense que c'était bien de témoigner de cela aujourd'hui pendant des décennies, voire quelques siècles. L'armée avait mauvaise presse au niveau de l'Église en général, mais je pense que lorsqu'on remet les choses dans leur contexte, ce sont des serviteurs de l'État, comme les policiers peuvent l'être, comme les médecins peuvent l'être, comme les infirmières peuvent l'être. Et vous savez, même dans cette période de COVID, l'armée a été appelée à grand renfort pour aider dans les résidences de personnes âgées et puis dans des situations où on avait besoin d'eux, ils répondent toujours présents. Donc, je pense que une ou deux fois par année, lorsque le temps de se souvenir arrive, c'est important de ne pas oublier, de remercier et de souligner l'apport des uns et des autres. Alors, que Dieu vous bénisse, Alex et Sandra, passez une bonne journée. Alors, ceci étant dit, on va prier maintenant pour débuter notre temps. Pour ceux qui ont leur Bible, on va déjà vous demander d'ouvrir dans Hébreux au chapitre 4, le verset 12. Donc on va prier et après ça, je vais lire deux fois le verset, tout simplement pour bien assimiler la notion de ce matin. Alors Seigneur, on veut te remercier pour cette journée, journée du souvenir, journée à travers lesquelles effectivement on se rappelle des services de nos militaires, de nos forces armées. Qui volent constamment, Seigneur, en grand renfort, Seigneur, pour la population du pays. Merci, Seigneur, pour leur dévouement, merci pour leur acharnement à la tâche dans des contextes parfois difficiles, parfois même dangereux et périlleux. Mais tu vois, Seigneur, qu'ils mettent le bien-être de la population avant leur propre sécurité. Donc on te demande ce matin, Seigneur, de les bénir, de bénir non seulement les militaires, mais aussi l'ensemble de leurs familles qui acceptent de prêter pour un temps leur papa, leur maman, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leur époux, leur épouse pour servir la nation. On te demande une grâce particulière sur notre frère Alex ce matin, sur son épouse Sandra, sur leur fille et sur toute la famille. On te demande, Seigneur, que tu leur accordes une journée remplie de joie, remplie de doux souvenirs qui se créeront aujourd'hui et que ta main toute puissante et que ta présence de façon palpable, Seigneur, soit ressentie auprès d'eux. Protège-les dans le chemin qui les mène à Québec et accorde-leur des moments mémorables. Prends contrôle aussi, Seigneur, de ce moment qu'on prend pour étudier ta parole, ouvre notre entendement. Prends contrôle, Seigneur, de tous les aspects techniques qui parfois, Seigneur, viennent à choper. Et permets-nous, Seigneur, d'avoir un temps enrichissant dans ta présence et dans l'étude de ta parole. Merci pour ce que tu t'apprêtes à dire. Merci pour ce que tu as préparé pour nous de toute éternité. Ouvre notre entendement, ouvre notre pensée et en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur, Sauveur et Maître Jésus-Christ. Amen. Alors encore une fois, bien le bonjour à tous en ce jeudi 11 novembre 2021. Je lis pour vous le passage qu'on étudie tout au long de cette semaine, qui est en fait une mise à jour, une étude peut-être un peu plus approfondie sur le verset que le pasteur Sergio a eu à partager avec nous lors de la prédication de dimanche. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui prêche le dimanche, j'aime bien prendre la semaine pour essayer de développer encore un peu davantage ou pour ressasser les idées qui ont été partagées le dimanche. Ça nous permet d'avoir une idée plus claire du verset en question et d'être béni par la prédication sur plusieurs journées. Donc la parole nous dit dans Hébreux au chapitre 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je répète, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et la section sur laquelle on revient aujourd'hui, c'est la partie du verset qui dit que la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Je répète, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Hier, on a parlé de la notion du couteau qui est tranchant. Et on a vu que juste le mouvement tout à fait habituel de découper une chose va entraîner trois conséquences ou va nécessiter trois actions. Premièrement, ça va percer. Une pièce de viande qu'on s'apprête à déguster, ben le premier coup de couteau va percer dans la couverture extérieure pour permettre par la suite une pénétration plus grande du fil de la lame. Donc, premièrement, on perce. Donc, Dieu, effectivement, va percer les parties externes de notre vie pour pénétrer plus profondément. Lorsqu'on continue le mouvement du couteau, on va séparer la pièce de viande au minimum en deux. Donc, si on a un steak et on fait un coup de couteau, ben si on pousse le coup de couteau plus profondément, ben là on va avoir une section du steak qui va être séparée de son point d'origine. Et enfin, on va exposer aussi la pièce de viande. Et j'expliquais hier que pour voir la cuisson d'une pièce de viande, assurément, on peut faire le test en tâtant la viande, en voyant si c'est moelleux ou pas, et on va essayer de saisir quel est le taux de cuisson auquel on a soumis la viande. Mais pour en avoir une idée claire, nette et précise, le moyen le plus sûr, c'est effectivement d'ouvrir la viande et de voir de quelle couleur elle ressort au niveau de la coupure. Alors, Dieu va percer effectivement, la parole de Dieu va percer effectivement pour pénétrer en nous. Puis, la parole de Dieu va séparer les choses qui doivent être séparées dans nos vies et va exposer notre intérieur. C'est un mandat tout à fait particulier à la parole de Dieu dans son rôle d'épée, dans son rôle de couteau. Aujourd'hui, on va voir les sphères, les secteurs de notre vie dans lesquels cette parole veut pénétrer et faire son action de coupure, de séparation et d'exposition. Le verset nous disait qu'elle était pénétrante, la parole de Dieu. Pénétrer, c'est le terme dikneomai. Pour ceux qui prennent des notes et vous êtes nombreux à le faire, c'est D-I-K-N-E-O-M-A-I, dikneomai, qui veut dire passer à travers et qui veut dire percer. C'est vrai qu'on a tous une carapace. On a tous quelque chose qu'on présente à l'extérieur, qu'on laisse comme visible aux gens qui nous entourent, mais ce que les gens voient de l'extérieur, ce n'est pas toujours la réalité de notre vie à l'intérieur de notre être. La plupart des gens, on n'aime pas, ou la plupart d'entre nous plutôt, on n'aime pas nécessairement laisser voir les choses qui nous dérangent, les choses qui nous affectent, les choses qui nous attristent. Alors lorsqu'on passe par un moment difficile, certains vont se greffer au visage un sourire, certains vont passer à travers des périodes qui sont intenses, demandantes, éreintantes, et malgré tout vont afficher un visage paisible, un visage tranquille, alors qu'à l'intérieur, il peut y avoir la tempête. Parfois, cette couverture va aussi cacher des méfaits, des blessures, va parfois cacher même des torts qu'on a ou des tares qu'on a à nous-mêmes. Il n'y a personne qui va se lever le matin en disant « Je vais afficher à tout le monde aujourd'hui que je suis menteur. » Non, celui qui est menteur va essayer de cacher le fait qu'il est menteur. Celui qui a une problématique avec la sincérité, qui va avoir tendance à être hypocrite, il ne va pas afficher publiquement son hypocrisie en disant à tout le monde, hey, regardez, je suis hypocrite. Non, il va le cacher. Lorsque quelqu'un a des tendances de kleptomanie, donc d'être un voleur, ben cette personne en général ne va pas se promener avec une pancarte en disant, bonjour, je suis un voleur, faites attention. Non, il va cacher la chose. Et très souvent, ce qui est très malheureux, c'est qu'on apprend avec les années, avec le temps, avec voire des décennies, que pendant tout ce temps-là, on a fréquenté quelqu'un et il n'y avait pas la réalité de son état. Mais foncièrement, on doit s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'on est tous comme ça. Il est très faux de croire que nous affichons à l'extérieur tout bonnement ce que nous sommes à l'intérieur. On a tous cette propension à cacher une partie de nous-mêmes, à cacher surtout nos torts, à cacher les failles qu'on a dans notre vie et à afficher au grand jour quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'est dans la réalité, quelqu'un qui est beaucoup plus parfait qu'il ne l'est dans la réalité. Et la parole de Dieu, dans son rôle d'épée, va venir pointer, va venir percer, outrepasser donc cette carapace qu'on peut avoir pour venir pointer exactement l'endroit où il y a une faille, où il y a un défaut, où il y a quelque chose à amender ou à transformer dans notre vie. Donc la parole de Dieu veut pénétrer au plus profond de mon être. On peut lui résister. Certains pensent que moi je me ferme à la parole de Dieu, donc elle ne pourra pas aller toucher très profondément. Ça, c'est juste illusoire dans notre tête. On sait très bien lorsque Dieu nous dit, voici mon fils, tu as tel problème dans tel secteur de ta vie. Et même si on lui fait, si on lui tourne le dos, même si on lui ferme l'oreille, cette parole de Dieu vient malgré tout éclairer, vient malgré tout pointer, vient malgré tout piquer dans un endroit où on sait qu'il y a un tort à changer ou qu'il y a une faille à colmater. Donc la parole de Dieu se veut pénétrante jusqu'au plus profond de notre être. Là où le regard de l'homme ne peut pas aller, le regard de Dieu s'y plonge. Et devant lui, bien entendu, et devant la vérité de sa parole, nul d'entre nous ne peut se cacher ou se faufiler ou se défaire de ce regard. La parole de Dieu vient pointer exactement là où elle doit. On nous dit, elle est pénétrante jusqu'à partager. Le terme partager veut dire faire une division en soi. Lorsqu'on a un ensemble, on va dire, les enfants jouent avec des billes, donc lorsqu'on a un ensemble de billes plutôt, et qu'on va partager les billes, ça veut dire qu'on sépare au minimum les billes en deux sections. Donc, si on en a 20, on les sépare de façon équitable. Un enfant en prend 10, l'autre enfant en prend 10. Mais forcément, lorsqu'il y a partage, lorsqu'il y a une incision qui est faite dans une pièce de viande, il y a donc séparation, il y a partition, il y a division. Et ce n'est pas la division dans le mauvais sens du terme. Ce n'est pas la division à laquelle le Seigneur s'oppose et envers laquelle le Seigneur nous demande de faire gaffe. La Bible nous dit que celui qui cause des divisions dans le peuple de Dieu, il y a des conséquences à ces causeurs de division, à ceux qui provoquent la division au sein de l'Église ou au sein du corps de Christ. Ici, lorsqu'on parle de division, on parle de séparer des parties de notre être, séparer, d'enlever, de retrancher des parties de notre être. Un peu comme je l'expliquais hier, ce verset lorsqu'on parle du sarment. Vous savez, Jésus va dire « Je suis le pied de la vigne, je suis le cep et vous êtes les sarments ». Les sarments qui ne portent pas de fruits, on les coupe et on les jette au feu. Et même les sarments qui portent du fruit, on les émonde pour qu'ils portent encore davantage de fruits. Émonder veut dire enlever, veut dire retrancher des parties du sarment qui pourraient être nuisibles. J'ai grandi en partie dans des régions viticoles en France. Que ce soit mon grand-père maternel ou que ce soit des amis même que j'avais en classe lorsqu'on était à Narbonne, plusieurs d'entre eux travaillaient la vigne. Mais à un moment donné, lorsqu'on prend soin d'une vigne, on regarde les branches, donc les sarments, qui portent du fruit. Et lorsqu'on voit qu'il y a une partie de ce sarment qui est inutile, qui ne porte pas de fruit, on le coupe. Parce qu'on sait que s'il reste là, il va bouffer l'énergie, il va manger les nutriments qui seraient propices aux raisins et qui va faire en sorte que le sarment par lui-même ne porte pas autant de fruits ou les fruits qu'il porte ne mûrissent pas, ne grossissent pas autant qu'il le devrait, tout simplement parce qu'il y a une partie de la branche qui est inutile mais qui se gave malgré tout de la sève et de tous les nutriments qui pourraient être utilisés ailleurs. Donc, dans notre vie spirituelle, il en est aussi de même. Il y a des choses que Dieu veut retrancher. Il y a des choses qui meublent notre existence. Il y a des choses qui meublent notre vie que Dieu sait comme étant inutiles dans ses plans, dans ses projets, dans la réalisation du mandat qu'il a pour chacun d'entre nous, et Dieu veut les retrancher. La grande question pour toi et pour moi est à savoir, est-ce que je permets effectivement à la parole de Dieu de venir retrancher des sections de ma vie? Est-ce que je permets à la parole de Dieu de venir réarranger, redisposer les composantes de ma vie? Si on prend le jeu de billes, comme on disait tout à l'heure, Dieu peut vouloir en retrancher 4 parties. Il m'en reste quand même 16. Dieu pourrait dire, non, moi j'en retranche 19 et il en reste simplement une. Est-ce que Dieu a effectivement le droit, dans ton jeu de billes que constitue ta vie, de venir avec sa parole et te dire, tu dois mettre 4 billes à part. Tu dois te départir de 19 billes. Est-ce que la parole de Dieu a ce pouvoir, plus encore? Est-ce que tu permets ce discours à la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu permets à Dieu de te dire dans ta vie, voici les choses que je veux que tu retranches? Dieu a-t-il ce droit? On nous dit par la suite qu'elle va aller jusqu'à partager âme et esprit. Partager âme et esprit. Âme, c'est le terme psyché. P-S-Y-C-H-E. Âme, psyché, P-S-Y-C-H-E. Pour ceux qui prennent des notes, le prochain terme, c'est le terme esprit. Esprit, c'est le terme pneuma, P-N-E-U-M-A. Un peu comme un pneumatique et psyché, un peu comme le psycho de l'être. Donc, pneuma, P-N-E-U-M-A. Psyché veut dire quoi? Psyché, c'est le centre des émotions, L'âme, c'est considéré comme le centre des émotions, des désirs et des passions. Pneuma, c'est le souffle de vie qui nous habite, et de surcroît à ça, pneuma est aussi cette section de notre être, puisque l'homme est tripartite, donc corps, âme et esprit. C'est à travers l'esprit que nous venons en contact avec Dieu. Donc c'est ce qui nous permet de parler à Dieu et d'entendre la voix de Dieu, ce qui nous permet d'être en communion, d'échanger avec Dieu. Donc ici, on nous dit que la parole va venir séparer ce qui est de l'âme de ce qui est de l'esprit. La parole va faire la démarcation entre ce qui vient de mes émotions et ce qui vient de ma relation avec Dieu. Et on en conviendra tous que régulièrement, il y a une espèce d'amalgame entre nos désirs et ce qu'on croit être la volonté de Dieu. Lorsque on permet à Dieu de venir séparer les billes que nous avons, lorsqu'on permet à la parole de Dieu de venir nous dire, voici dans ta vie, il y a telle et telle section que je veux supprimer ou qu'il nous faut supprimer, c'est permettre aussi à Dieu de faire la séparation parfois entre les choses qui nous animent, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous enflamment et les choses qui viennent réellement de Dieu. À l'occasion, ces deux choses ou ces deux secteurs ne viennent pas en conflit. Dans le meilleur des mondes, notre âme et les désirs qui nous habitent seraient les désirs de Dieu. Dans le meilleur des mondes, nos plans, nos projets, nos objectifs seraient les objectifs de Dieu. Mais on s'entend que régulièrement, nos objectifs sont bien loin des objectifs de Dieu. Nos voix sont très loin régulièrement des voix de Dieu. Les chemins qu'on veut emprunter sont très souvent différents des chemins que Dieu voudrait tracer pour nous. Alors par conséquent, la parole de Dieu est cet outil que Dieu met à notre disposition pour savoir départir ce qui vient de Dieu de ce qui vient de nos passions. Je vous racontais il y a quelque temps cet épisode de ma vie lors de la maladie, alors que j'avais une décision à prendre concernant l'amputation de mon pied. Et je vous expliquais que lorsque j'ai demandé aux gens autour de moi, la plupart avaient cet avis qui était « Florent, tu dois te faire amputer parce que ça serait un pied de nez au diable et à la maladie ». Et au moins, ça te garderait parmi nous le plus longtemps possible pour servir Dieu. Particulièrement, c'est un de mes assistants qui m'a comme ramené à la réalité. Moi, mon objectif au départ, et je l'avais dit clairement à mon épouse dans l'échange qu'on a eu lorsqu'on se disait l'un à l'autre, notre point de vue par rapport à l'amputation. Daphné me disait, effectivement, Florent, tu devrais te faire amputer. Ça serait un pied de nez par rapport à la maladie et au diable qui veut te freiner. Et toi, ça serait de lui dire, malgré qu'il me manque un pied, je continue à servir Dieu. Et moi, je lui ai répondu, non, je ne veux pas me faire amputer. Et les raisons tout à fait particulières et réelles pour lesquelles je ne voulais pas me faire amputer, je disais, il y a deux choses. Un, je veux recommencer à faire de la boxe. Je veux remonter dans un ring de boxe. Et je sais que pour monter dans un ring de boxe, ça me prend mes deux pieds. Sinon, j'en serais pas capable. Et je disais de surcroît à cela, j'aime faire la cuisine pour la tablée du quartier. Cette activité qu'on avait au niveau de l'église avant la pandémie, où on nourrissait les gens. Et je disais, je n'aurai jamais de restaurant, mais une fois par mois, j'ai mon petit restaurant où je fais la cuisine et ça me prend mes deux pieds pour aller faire tous les achats, pour aller préparer la cuisine et pour servir les gens si je n'ai pas mes deux pieds. Donc, je ne peux pas le faire. Et je disais à Daphné, tu vois, j'ai une qualité de vie actuellement qui est peut-être amoindrie à cause des traitements, à cause de la maladie, mais j'ai quand même un certain niveau de qualité de vie que je veux maintenir, donc je ne veux pas me faire amputer. Et lorsque j'ai parlé avec un de mes assistants, et il se reconnaîtra s'il nous écoute ce matin. Il m'a dit, Florent, tu es rendu utile au service de Dieu et on veut te garder le plus longtemps possible, donc tu devrais te faire amputer. Et j'ai dû revenir sur ma position et dire, Florent, tu n'as pas bien analysé le pourquoi tu ne voulais pas te faire amputer. Est-ce que le pourquoi qui fait que tu ne veux pas aller là, est-ce que c'est pour ton plaisir personnel, la boxe et la cuisine, ou c'est la question de servir Dieu? Et lorsque j'ai parlé avec Daphné par la suite, je lui ai dit, regarde, il y a des choses que je peux abandonner dans ma vie. Je peux abandonner la boxe, ça va m'attrister, mais je peux vivre sans ça. Je peux vivre peut-être sans cuisiner non plus. Ça va être un déchirement à l'intérieur de moi, mais je crois que je suis capable de vivre sans cela. La seule chose que je ne sais pas ce que je pourrais faire sans cela, c'est servir Dieu. Si on m'enlevait le service pour le royaume de Dieu, je ne sais pas de ce que je ferais de mon existence. J'ai été créé pour ça. Alors je lui ai dit, je dois revenir prier pour voir quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'amputation versus mon service dans le corps de Christ. Et c'est là que, une dizaine de jours plus tard, j'ai eu donc ce verset qui m'est venu par la parole de Dieu et qui disait, oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui proclament, qui disent à Sion, ton Dieu règne encore, qui proclame la bénédiction sur Sion et qui dit, ton Dieu règne encore. Le fait que le mot les pieds était mentionné au pluriel, c'était cette parole qui pour moi venait me dire, voici ce que Dieu veut. Donc dans certains cas, effectivement, Dieu vient avec sa parole pour séparer. Dans mon cas, ça a été, Florence, sépare les choses entre le service que Dieu veut que tu lui rendes et le plaisir ou la qualité de vie que tu penses que tu devrais avoir. Et mon cas est peut-être anecdotique, mais je crois que régulièrement, c'est quelque chose que Dieu veut traiter avec nous. Très régulièrement, on prend nos passions, on prend nos désirs, ce qui est inhérent et propre à l'âme, comme priorité par rapport à la notion spirituelle et à notre relation avec Dieu. Se pourrait-il que régulièrement des activités prennent le pas sur le service de Dieu? Se pourrait-il que régulièrement nos désirs, notre passion s'enflamme pour des choses de cette terre, mais que notre passion ne s'enflamme pas pour les choses du royaume de Dieu? Si c'est le cas, effectivement, il y a des coupures, il y a des réarrangements, il y a des dispositions qui doivent être prises dans notre vie et ces dispositions vont être dictées, vont être guidées par la parole de Dieu. Alors voilà comment il vient à séparer l'âme de l'esprit. Par la suite, il dit, et c'est un point intéressant, elle vient à partager aussi les jointures de la moelle. On rentre dans un cours d'anatomie, on rentre dans un cours de biologie humaine. Jointures et âme. Les jointures, c'est quoi? Les jointures, c'est ce qui permet à un squelette d'être constitué correctement. Entre une phalange et une autre, dans mes doigts, il y a une jointure. Une jointure qui unit la première phalange à la deuxième phalange. Puis, lorsqu'on parle de la main, il y a des jointures qu'on appelle le poignet qui viennent joindre ma main à l'avant-bras. Puis, il y a le coude qui permet de joindre l'avant-bras avec le restant du bras. Mais après ça, il y a encore une jointure qui vient joindre le bras au complet avec le restant du corps. On appelle ça l'omoplate. Donc, au niveau des jointures, c'est ce qui permet à notre corps d'avoir la forme qu'il a et d'avoir la composition qu'il a. Qu'est-ce qui te forme? Qu'est-ce qui te donne la composition que tu as aujourd'hui? Je vais plus loin. Certaines personnes, et je le mentionnais hier, certaines personnes sont identifiées de par leur profession. Tout à l'heure, on a parlé du frère Alex qui est militaire, mais au-delà de sa carrière de militaire, les choses qui font qu'il est un bon militaire se trouvaient d'abord à l'intérieur de lui, les qualités au service, la disposition au service, la fidélité dans le service, voilà des qualités intrinsèques à un bon militaire. La problématique serait que quelqu'un qui fait carrière dans l'armée ne soit identifié que par sa carrière. Certaines personnes viennent à être des serviteurs de la nation comme des politiciens. Et à un moment donné, puisqu'on est en démocratie, il y a une élection, et pour X raisons, malgré le service qu'ils ont rendu à la nation pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans, il y a un changement de gouvernement. La population ne vote plus pour ce politicien, mais vote pour un autre. Si la vie de cet homme, c'est simplement d'être un politicien, du jour au lendemain, cette vie s'arrête. Si l'identité de cet homme n'est que la politique, son monde vient s'écraser. Ma question pour toi et pour moi, qu'est-ce qui te constitue aujourd'hui? Qu'est-ce qui tient ta vie en ordre aujourd'hui? Lorsque tu cherches à être identifié, par quoi es-tu identifié? Es-tu identifié par ta carrière? Es-tu identifié par ton statut social? Es-tu identifié par ton statut monétaire ou pécunier? Es-tu identifié par tel ou tel talent? Qu'est-ce qui t'identifie? Quelle est ta marque ta carte de visite? Est-ce que la première chose qu'on sait de toi, c'est voici un politicien, voici un médecin, voici un plombier? Ou est-ce que ce que l'on sait de toi de façon initiale, c'est voici un chrétien? Je vous rappelle régulièrement cette histoire d'une infirmière qu'un nouveau pasteur va rencontrer à l'hôpital. Il vient d'arriver dans son église depuis environ quelques mois et il connaît pas tout le monde. Et à un moment donné, il se rend à l'hôpital et il se rend compte qu'une de ses congrégantes, une des membres de la congrégation, travaille à l'hôpital comme infirmière. Et s'adressant à elle, il lui dit « Ah, je ne savais pas que vous étiez infirmière. » Et elle dit « Non, 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 chut, pasteur, non, non, je suis une chrétienne déguisée en infirmière. Je suis une chrétienne qui travaille comme infirmière. » Et pour elle, son identité était donc d'abord d'être chrétienne et non pas d'être infirmière. Alors la parole de Dieu va venir nous confronter aussi à savoir d'où nous tirons notre identité. Notre identité, la tirons-nous de Dieu? La tirons-nous de la parole de Dieu? Ou tirons-nous notre identité de tout un tas d'autres choses? Est-ce que Dieu aurait le droit de couper dans les choses qui marqueraient ton identité alors que ce n'est pas celle que Dieu voudrait? Se pourrait-il que si tu étais ce politicien qui a travaillé pendant 25 ans, que Dieu lui-même, parce que tu es son enfant, mais parce que l'identité que tu affiches, c'est strictement celle d'un politicien, se pourrait-il que Dieu veuille effectivement que tu perdes aux élections pour que tu reviennes à ton identité primaire qui est celle d'être enfant de Dieu? Pourquoi te connaît-on dans le monde? Te connaît-on d'abord pour ta profession, d'abord pour ton statut social, d'abord pour ce que les hommes disent, ou te reconnaît-on d'abord pour le fait que tu sois un chrétien, un enfant de Dieu, un pécheur repenti et sauvé? Quelle est ton identité? Dieu ne partage pas l'identité qu'il soumet en toi. Dieu ne partage pas la présence de Christ en toi avec autre chose. Quelle est ta première identité? Et sachons qu'en tant que chrétien, Paul va le dire très bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, c'est ton identité primaire. Est-ce celle-là effectivement qui est affichée au grand jour, en tout temps et en tout lieu? Quand tu sers en tant qu'infirmière, est-ce qu'on sait tout d'abord que tu sers parce que tu es chrétienne? ou tout simplement parce que tu avais le désir de la profession d'infirmière? Quelle est l'identité que tu affiches? De surcroît à cela, on va parler de la moelle. Donc, les jointures, c'était ce qui te permet de te présenter dans l'état que tu devrais être, ce qui te constitue à toi. La moelle, c'est ce qui fait bouger le corps. Lorsque le bout de mon doigt se met à plier comme ça, c'est une décharge électrique qui part de mon cerveau, qui va jusqu'au bout de mon doigt et qui dit à mon bout de doigt, à l'annulaire, voilà, tu dois plier. Mais tout cela a été transporté de façon ultra rapide entre mon cerveau et mon doigt à travers de la moelle. C'est ce qui conduit l'impulsion. C'est ce qui fait bouger. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui te fait avancer? Parfois, on a des choses qui nous font bouger et qui nous font avancer, qui ne sont pas celles avec lesquelles Dieu voudrait qu'on bouge. Parfois, on a des choses qui viennent nous émouvoir au plus profond d'entre nous, des ambitions qui nous font bouger et qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Certaines personnes vivent leur vie tout entière en disant « Un jour, je dois avoir $1 million. » Et ils bougent, ils travaillent, ils avancent simplement dans la quête de ce $1 million. Certains vont bouger dans la quête tout simplement d'avoir un minimum pour vivre tranquille. Mais même si c'est un strict minimum pour vivre tranquille, ce qui te fait bouger, c'est ce minimum que tu cherches, et ce n'est malgré tout pas la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui te constitue et qu'est-ce qui te fait bouger? La parole de Dieu aurait-elle le droit dans ta vie de dire « Mon fils, ma fille, il y a des choses qui te font avancer qui ne viennent pas de moi. Il y a des quêtes dans lesquelles tu es qui ne viennent pas de moi. Il y a des objectifs que tu t'es fixés qui ne viennent pas de moi. T'as des émotions, t'as des passions, t'as des désirs qui n'émanent pas de moi. » Et dans de tels cas, Dieu veut effectivement régulièrement retrancher des sphères, des secteurs ou des sections de notre vie. La parole de Dieu peut-elle, dans un tel cas, venir séparer les passions du cœur versus ce qui émane directement de l'Esprit de Dieu? La parole de Dieu peut-elle effectivement venir séparer de nous les choses qui nous constituent, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont simplement d'une quête humaine? La parole de Dieu peut-elle vraiment venir sectionner de notre vie ces choses pour lesquelles on a couru jusqu'à présent, mais qui ne sont pas du royaume de Dieu? La parole de Dieu a-t-elle droit d'émonder ta vie, de sectionner ta vie, de séparer de ta vie des choses que Dieu sait comme inutiles, futiles, voire même dangereuses? Vous allez dire, faire du sport, c'est pas un danger. C'est pas un danger tant que ça ne prend pas la place de Dieu. Servir sa communauté, c'est pas un danger, effectivement, tant que ça ne prend pas la place de Dieu. Parfois, certaines bonnes choses viennent à prendre la place de Dieu. Même si elles sont louables et nobles à la base. Mais venant manger le temps de ma relation avec Dieu, manger les objectifs autres que Dieu avait pour moi. Alors je prie aujourd'hui que la parole de Dieu, tu la laisses parler à ton cœur pour qu'elle puisse effectivement enlever ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas de ses plans, ce qui n'est pas de son objectif pour ton existence. Et je prie que ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu la tires maintenant de ce que la parole de Dieu dit de toi et de ce que la parole de Dieu veut faire à travers toi. Seigneur, merci pour cette parole qui vient effectivement profondément percer des secteurs cachés de notre vie. Seigneur, on passe au-delà des apparences et de ce que les gens voient. On traite maintenant de la profondeur du cœur, de la profondeur de notre être. Alors je prie, Seigneur, que tu viennes à séparer dans nos vies, tel que tu le veux, au rythme que tu le veux, au niveau où tu le veux, que tu viennes séparer ce qui n'est strictement que l'aboutissement de mes désirs, de mes passions humaines, de ce qui est de toi et qui émane de notre relation avec toi. Je veux que tu sois capable, Seigneur, de retrancher de ma vie ce qui me constitue, mais qui ne vient pas de toi. Ce qui vient affecter mon identité autre que ta parole. Seigneur, je prie de ne pas même être constitué simplement parce que je suis un pasteur. Parfois, c'est l'activité pastorale qui vient à identifier ce qu'on est et non pas notre statut d'enfant de Dieu. Alors, je prie, Seigneur, de revenir à la base, en ayant abandonné ma vie tout entière, pour que dans cette vie, tu puisses garder ce que tu veux garder, mais tu puisses émonder aussi tout ce que tu veux émonder. Je prie, Seigneur, pour moi, parce que je ne peux pas prendre cette décision pour qui que ce soit d'autre. Mais j'intercède, Seigneur, pour que ma sœur, mon frère, entendent les mots qu'on prononce ce matin, que ces mots, Seigneur, soient sous l'onction de ton esprit et qu'ils les amènent eux aussi à soumettre leur vie tout entière à ta parfaite et unique volonté, afin que tu supprimes ce qui est à supprimer, que tu coupes ce qui est à couper, afin que tu dévoiles aussi les voies tortueuses de notre cœur. Bénis ma sœur ce matin, bénis mon frère ce matin, et en toute chose, que simplement ta volonté et uniquement ta volonté soit accomplie. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se reprendre donc demain matin. On va avoir un dernier enseignement sur la dernière partie de ce verset qui dit que la parole de Dieu va venir jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Donc on vous invite à être là demain matin. Sur ce, passez une bonne journée dans la présence du Seigneur. Soyez utiles pour le Seigneur et demandez-lui de vous parler et de faire de votre vie aujourd'hui ce qu'il a envie d'en faire. Que Dieu vous bénisse. Un rappel, inscription pour l'assemblée de dimanche, bien entendu, à travers soit notre courriel ou à travers la boîte vocale de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.